Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé actu, cinéma avec le film L'incroyable femme des neiges et musique avec l'album Luxe de Rosalia. Allez l'écouter. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec l'architecture, les arts visuels et les arts de la scène. Je suis toujours avec Fabrice, Isnel, Hortense, Corian et Violette. C'est parti! À présent, plongeons-nous dans un univers particulier, celui de l'art déco. Et c'est toi, Fabrice, qui va nous en parler dans le cadre d'une expo particulière. C'est le moment architecture.
Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Avec Léa, nous partageons les thèmes sculpture et architecture depuis un moment. Parce que ça reste deux arts confidentiels, parce que nous avons à cœur de les traiter, mais surtout, il faut l'avouer, parce que personne ne veut en faire une chronique. Bref, je m'y colle ce mois-ci, et en cherchant les expositions à Paris et sa banlieue, je n'ai pas trouvé grand-chose qui dure assez de temps pour vous le recommander. Il y a quand même la Cité de l'architecture et du patrimoine, ou dit autrement, l'ancien musée de la sculpture comparée de Paris.
C'est-à-dire musée de la sculpture.
L'actuelle Cité de l'architecture et du patrimoine est une partie du palais de Chaillot et son tout premier nom a été le musée de la sculpture comparée en 1882. Il a pris son nom actuel en 2004. Cette cité tient sur trois étages, place du Trocadéro, et a une vue imprenable sur la dame de fer parisienne, la Tour Eiffel. En ce moment, dans cette cité, il y a l'expo Paris 1925, l'art déco et ses architectes. 200 mètres carrés dans la galerie d'architecture contemporaine. Le but de cette expo, je cite, plonger au cœur des célébrations du centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, un événement emblématique qui a marqué l'histoire de l'architecture et des arts décoratifs. Pour y accéder, vous arrivez par la place du Trocadéro, vous suivez le fléchage sur le sol de la cité qui vous fait passer par le rez-de-chaussée où se trouve l'exposition permanente composée de belles et nombreuses sculptures. Vous prenez ensuite un ascenseur panoramique avec vue sur l'expo permanente qui vous emmène au deuxième étage à la galerie d'architecture contemporaine. Imaginez des maquettes de bâtiments qui occupent quasiment toute la surface d'une longue salle rectangulaire aux murs blancs et des baies vitrées avec la dame de fer en fond sonore. Paris 1925 est tout au bout de cette longue salle, à gauche en sortant de l'ascenseur. Arrivé aux portes de l'expo temporaire, changement d'ambiance, peu de lumière, beaucoup de textes et aucune source sonore. Pour la partie son, je repasserai.
Bon alors, toi, t'en as pensé quoi de cette expo ?
Je n'ai pas aimé.
Oula !
En fait, pour tout vous dire, je n'ai pas compris cette exposition. Alors d'abord, nous passons littéralement d'un espace éclairé, moderne, accueillant, à une ambiance sonore, sombre, confidentielle, j'ose même dire élitiste. Ambiance sombre. Ensuite, j'ai été habitué à d'autres scénographies, des vidéos d'interviews, des sons d'ambiance et de la lumière pour lire des textes écrits en petits caractères. Après, je dois l'avouer, j'ai un kératocone, mes yeux déforment chaque lettre. Conséquence, j'ai un peu de peine à lire dans l'obscurité. En plus, une expo rapide, ponctuelle et catalogue, je me suis retrouvé à lire une succession de biographies et de moments historiques. Bref, je me suis vraiment dit que je n'ai pas fait un bon choix.
Donc t'es en train de dire que tu recommandes pas cette expo ?
Je vais nuancer mon propos.
Je préfère.
Allez à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Allez à la Galerie de l'architecture moderne et parcourez-la. Allez dans la partie Paris 1925, prenez votre temps et appréciez les dessins, schémas et croquis. Scrutez les quelques sculptures et lisez les textes de l'expo si vous en avez la possibilité. Par contre, si vous souhaitez y aller spécifiquement pour... voir cette expo, à part sauf si vous êtes un érudit d'architecture, je vous conseille de reconsidérer votre choix. Si l'art déco vous intéresse, je vous conseille l'expo du Musée des Arts Décoratifs 1925-2025, 100 ans d'art déco, qui y est jusqu'au 26 avril 2026. Je ne l'ai pas visité, mais le premier mot de la description de l'expo sur le site internet parle de voyage. Que dire de plus après ça ?
En tout cas pour Paris 1925, c'est une exposition qui retrace 100 ans d'art et d'architecture. Merci Fabrice. Passons aux réactions. Bon déjà, c'est bon, on peut y aller les yeux fermés hein, dans cette expo. Hein. Tu nous as fait le chemin, l'ascenseur, le couloir, la gauche, la droite.
Ouais, c'était ma première chronique.
En revanche, je comprends pas, tu n'as pas compris, on ne comprend pas Rosalia, je ne sais pas ce qui se passe en novembre, mais on ne comprend plus personne.
Oui, j'allais dire pareil, alors personne n'a aimé, c'est ça qui est bien, c'est que personne n'a aimé. Vraiment, le thème de l'émission, c'est vraiment les recommandations, vraiment
à ne pas faire.
Ouais, du coup, c'est ouf parce que je ne voulais pas que ça soit la caricature du masque et la plume, on est en plein dedans.
Corian, qu'est-ce que ça t'a inspiré tout ce sujet sur l'art déco, l'architecture ?
Je suis jamais allé à ce lieu, mais du coup, j'aimerais bien découvrir aussi. Après, tu parles du problème d'avoir trop de panneaux textes, un peu trop...
En fait, il faut vraiment imaginer que tu arrives dans un espace sombre avec des descriptions, enfin, tu sais, c'est des feuilles bleues écrites en noir, tu vois des successions d'architectes, plus ou moins connus d'ailleurs, et en fait, ouais, t'arrives, tu n'as aucune source sonore, quoi. Donc tu te dis, mais à qui est destinée cette expo, quoi? Et pourtant, c'est un lieu public. Donc je trouve que ça pose vraiment beaucoup de questions.
Isnel.
C'est vrai que la description que tu en avais donnée, vraiment, on s'attend à quelque chose d'incroyable. Et puis finalement, il y a un peu cette fausse joie, oui. Je suis aussi surprise, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas plus... pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des maquettes ou genre plus de...
Il y en a, mais c'est des modèles réduits, quoi. Enfin, c'est...
Oui, voilà, c'est ça. Ça n'a pas l'air d'être très, très vivant, très interactif de ce que tu décris. Donc, c'est
pas
vrai
interactif,
qu'il y a...
t'as raison. Ouais.
C'est ça, oui. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette fausse joie. Après, le reste du musée, ça m'a vraiment donné envie, mais effectivement, ne pas y aller que pour ça, parce que, étant myope, moi aussi, je pourrais pas lire. Ça va être compliqué.
Pour compléter ce que tu dis, je trouve même que ça va à contre-temps des expos que tu peux voir actuellement.
Oui.
Il y a une scénographie folle dans plein d'expos qu'on peut voir à Paris, dans différents musées, enfin, ou même en dehors. Je suis allé à la Cité internationale de la langue française, et là, c'est vivant, ça nous capte. Là, je me dis, mais en fait, vous parlez 60 ans et plus, ou c'est quoi?
Violette. Bon, ce lieu, il a quand même un gros défaut déjà, c'est qu'il se trouve à Trocadéro. Ah, donc, ouais. Il est quand même vraiment un endroit où personne n'a envie d'aller, on va pas se mentir.
Mais tu reviens, t'es dégoûté de ton expo, franchement, t'es dégoûté de ta journée.
Enfin, je veux dire, vraiment, je pense que tu as perdu beaucoup dans cette journée, en effet.
Non, en vrai, j'ai vu la Tour Eiffel sous le soleil, ce qui est incroyable à Paris.
Ça va, ça va. Mais écoute, merci pour cette demi-recommandation, du coup. J'irai. Peut-être pas, mais voilà, je garde en tête pour si jamais je fais du mal à quelqu'un.
Hortense. Moi justement, ça m'interroge parce que c'est une exposition que j'avais vraiment envie de voir, et puis j'aime bien justement les questions d'architecture, donc ce centenaire, il m'intéresse. Et là que tu dis ça, donc en fait je suis déçue, je pensais que ça serait chouette, etc. Mais en même temps, ça m'étonne pas trop, étant donné que la Cité de l'architecture, pour moi, je vois ça un peu comme un truc scientifique, tu vois les architectes qui se mettent entre eux et tout, je vois pas ça comme un truc hyper ludique de base. Donc en fait, je me dis, une exposition avec plein de textes, c'est, pour moi c'est un peu le typique écueil que tu peux faire dans une exposition, genre t'as envie de dire plein de trucs, c'est 100 ans d'histoire derrière toi, t'as envie de tout raconter, tout dire, et tu penses plus à toi, à ton expo... et comment t'aimerais qu'elle soit plutôt qu'à comment elle va être reçue. Donc je pense que le manquement, il est aussi sur le public et comment la réception, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. Paris 1925, donc c'est l'expo du moment pour tout savoir sur l'art déco dans le monde de l'architecture. C'est à la Cité de l'architecture et du patrimoine, comme l'a très bien dit Violette, à l'autre bout du monde, dans Paris 16. Elle est disponible jusqu'à mars prochain.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
À présent, Isnel, tu nous emmènes dans un conte musical qui a l'air magique. C'est la rubrique Art de la scène.
Alors oui, c'est un spectacle qui tourne partout en France, adapté de la très belle BD du même nom. Je dis très belle parce que je voulais l'amener en studio pour vous la montrer. Il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques, mais impossible de récupérer l'album qui est chez mon petit frère, qui le relie en boucle et en boucle depuis que j'ai pu lui faire dédicacer lors de l'avant-première. Et bon, comme il a 10 ans et un sens aigu de la propriété privée, j'ai choisi la sécurité. Mais donc on parle de l'histoire de Orso, c'est un jeune apprenti du maître du temps qui est chargé de veiller sur nos nuits jusqu'au soir où le sable magique du marchand de sable disparaît et où les rêves s'arrêtent. L'histoire devient alors une course contre la montre rythmée par des chansons originales signées Gaëtan Roussel, Nash ou encore Martin Luminet. Sur scène, il y a lumière, projection, marionnettes qui s'enchaînent avec beaucoup d'énergie et les enfants répondent aux comédiens comme des copains d'aventure.
Donc toi, t'étais à l'avant-première en famille, c'est ça?
Oui, c'est ça, avec ma mère et mon petit frère. Et c'était fascinant à 24 ans de se retrouver dans un spectacle destiné aux plus jeunes. Lui, il est dans cet âge charnière à 10 ans, c'est la fin de la primaire, c'est le moment où l'enfance, on essaye de... Voilà, tout devient embarrassant et donc on pouvait voir son combat intérieur, les yeux qui brillaient au moment où il y avait des bulles qui envahissent toute la salle. Et lui qui essaie de rester droit et digne parce que sinon ça fait trop bébé. et pourtant, je crois que c'est pour ça que Orso fonctionne finalement, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un enfant. Il suffit d'avoir été un enfant, ce qui en soi biologiquement est l'unique expérience qui est partagée par tous les adultes. Et ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est la façon dont la salle vit le spectacle. Pendant l'entracte, il y a un petit groupe d'enfants qui a réussi à aller sur scène, ce qui a obligé les comédiens à retarder la reprise. Et honnêtement, ça rend vraiment l'ensemble très vivant. On est vraiment loin de la solennité des salles d'adultes. Vraiment, ça bouge, ça rit fort, ça court partout dans tous les sens. Il y a d'ailleurs des scènes très drôles où il y a deux personnages qui jouent le rôle du soleil qui se disputent littéralement la lumière. Et c'est en fait pour introduire subtilement le fait que le rôle sera joué en alternance en fonction des dates. Et donc c'est vraiment une manière maligne de jouer avec la distribution tout en restant dans l'histoire.
On sent que t'as aimé, mais est-ce que tout est réussi ?
Alors, pas totalement, et ce qui est normal, c'était l'avant-première en septembre. Le scénario manquait parfois de lisibilité. On sent qu'il cherchait encore son rythme et qu'il hésitait entre plusieurs directions. Ce n'était pas une question de personnage en particulier, c'est vraiment plutôt au niveau du montage. Certaines transitions étaient un peu abruptes, d'autres un peu trop longues. Mais sincèrement, ça ne m'inquiète pas parce que le spectacle vivant, souvent, ça évolue constamment. Je l'ai vu en accompagnant les artistes en tournée. C'est vraiment une représentation qui n'est jamais la mienne, qui n'est jamais la même, pardon. L'œuvre respire, s'ajuste et trouve un peu sa meilleure version, et sachant que Orso démarrait à peine sur scène, je suis presque sûre que ça a déjà réussi à s'affiner depuis septembre dernier. Ce que le spectacle aussi réussit très bien, en revanche, c'est son rapport à la peur et la peur du noir et de l'inconnu. Ce sont des émotions très simples, mais qui sont racontées avec des images très fortes. Les étoiles LED que les enfants agitent, qui changent de couleur en fonction des scènes, le décor, le mapping vidéo, il y a aussi la chorégraphie des lumières qui accompagne Orso dans sa traversée de la nuit. Et je dois avouer que même en tant qu'adulte, on s'est vraiment laissé prendre. Et c'est peut-être quelque chose de rassurant à suivre que de suivre un héros qui a peur et qui avance quand même.
Donc tu recommandes ?
Oui, vraiment. Et aux parents, bien sûr, aux enfants, sans hésiter, et même à ceux qui n'en ont pas. Parce que Orso et le secret des étoiles part d'une émotion fondamentale, la peur d'être petit face à quelque chose de grand. Et je pense que c'est une émotion qui ne disparaît jamais avec l'âge, et je crois que ça nous concerne tous.
Un spectacle qui nous emmène dans les étoiles et nous fait voyager avec ses musiques. Merci Isnel. Passons aux réactions. Un spectacle dans les étoiles, qu'est-ce que ça t'inspire Hortense ?
Alors, bah, déjà, je suis heureuse parce que c'est la première bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui. Un bon spectacle
vrai.
À Paris.
Enfin, elle a quand même dit à un moment que tout n'était pas bon.
Perfectible, mais positif. Non, mais ça me donne carrément envie. Bah, je rejoins un peu ce que je disais sur L'incroyable Femme des Neiges. C'est cette idée que, franchement, un spectacle qui me rend heureuse, qui me donne l'impression d'être enfant, mais j'ai qu'une envie, c'est y aller. Donnez-moi des recommandations comme ça toutes les semaines. Fabrice, qu'est-ce que ça t'a inspiré?
Un dimanche sur quatre, pas une semaine sur quatre. Moi, je kiffe tout ce qui est en lien avec l'enfance et surtout avec l'adolescence. Dès que ça peut nous faire du bien, en fait, et puis surtout, dès qu'on peut aussi faire union, dès qu'on peut en fait se retrouver face à un thème très commun, surtout que on est à nos âges où on est un peu vénère, on revendique plein de trucs, on n'est pas content de plein de trucs. Enfin, dans l'équipe de C'est dans l'art, on fait quand même beaucoup de débats. Donc, on sait ce que c'est que de traverser nos âges et juste de retomber en enfance, de pouvoir avoir. Pareil, on revient à la question de la légèreté. Je te rejoins, Hortense. Juste avoir un moment où t'es là, tu revis des bons moments. Pas à la Disney gnangnan, mais un truc sympa. Quoi.
Violette.
Moi, je dois vous avouer que je suis un peu jalouse. Voilà, je suis jalouse parce que j'étais une enfant très angoissée de la nuit et j'arrivais pas à dormir le soir. Et je pense qu'un spectacle comme ça, quand j'avais 6 ans, ça m'aurait fait un bien fou. Voilà, parce que vraiment, tous les soirs, c'était le même combat pour essayer de trouver le sommeil et ces angoisses qui venaient de l'enfance, ces angoisses de l'enfance. Et donc, je pense que ça, en effet, ça m'a fait beaucoup de bien et que ça doit faire.
Mais alors, toi, aujourd'hui, t'irais le voir pour retraiter de ces sujets? Non, mais là, vous dire oui.
Oui, mais tout à fait. ouais, tout à fait, j'adore. Allez, j'y vais demain.
La vraie réponse,
moi, je suis pas forcément hyper, justement, sur les sujets de l'enfance et tout, je suis pas très dessin animé, tout ça, c'est pas trop mon truc, voilà, j'avoue, guilty, enfin, c'est une popular opinion, mais du coup, pas sûr, mais ça a l'air super quand même.
Corinne, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ?
Bah, tu l'as bien vendu, ouais, ça me donne envie de replonger en enfance aussi. Et je suis curieux un peu dans l'univers que ça propose, savoir un peu aussi la scénographie, est-ce qu'elle est marquante aussi, est-ce qu'elle nous plonge vraiment dans le...
Oui, surtout au niveau des costumes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai oublié par qui ils étaient faits, mais ils sont absolument magnifiques. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de travail et c'est vraiment une représentation littéralement de la BD sur scène. Au niveau des illustrations, c'est dommage que j'ai pas pu les ramener, mais vraiment, il y a vraiment c'est ce ressenti là.
Une prise d'otage est une prise d'otage, hein, tu ne pourras rien faire.
Totalement.
Mais alors juste pour une précision, c'est une comédie musicale, ça chante et ça danse, c'est ça?
C'est ça, oui. D'accord. Ça chante, ça danse, ça joue... Tout, oui.
Ça fait beaucoup, je pense. Mais c'est vrai que c'est bien. Enfin, pour faire l'opposition avec ce que tu disais, Fabrice, tu nous as présenté quelque chose de très... j'allais dire mort, mais en fait...
j'ai aussi eu mort. Voilà,
tu nous ramènes quelque chose de très vivant, de très bougeant. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Merci beaucoup, Isnel, pour cette recommandation. Pour rappel, on vient de parler du spectacle Orso et le secret des étoiles. Il se joue à Paris 13 à partir du 20 décembre. Et sinon, il est en tournée dans toute la France un peu plus tard, à partir de janvier. Comptez une trentaine d'euros pour aller le voir. Et merci à toi, Isnel, encore une fois.
Sculpture.
Littérature.
Musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et voilà, nous sommes déjà à la dernière partie de notre émission et on termine ce soir avec les arts visuels. Et pour ça, Hortense, tu nous emmènes à la Fondation Cartier.
Et oui, c'est le grand événement de la fin octobre. Un nouveau musée a ouvert dans le premier arrondissement. Bon, j'abuse un peu, car quand je dis musée, c'est en fait une fondation. Et quand je dis ouvert, je pense plus à... s'est installé dans de nouveaux bâtiments. Je parle de la Fondation Cartier qui a ouvert les portes de ses nouveaux locaux le 25 octobre 2025, en face du Louvre. Elle présente à cette occasion l'exposition Générale, une exposition rétrospective sur la collection de la Fondation. Cette exposition est un peu un épiphénomène dans l'histoire de la Fondation. Créée en 1984, Cartier est une fondation d'entreprise dont le but est le mécénat. Ainsi, son fonctionnement et ses expositions se basent sur les commandes et des résidences d'artistes financées par l'entreprise Cartier. L'exposition générale, donc, est différente de ce qui se fait habituellement, car c'est une grande rétrospective de 600 œuvres de la collection dans 1800 mètres carrés. Aujourd'hui, nous allons nous demander justement ce que cette exposition évoque et ce qu'elle dit de la Fondation elle-même, car c'est quand même une grande inauguration. Donc, dans un premier temps, et un des éléments les plus importants de cette inauguration, ce sont les nouveaux locaux, inspirés des grands magasins et en concordance avec la vision de Rem Koolhaas à Lafayette Anticipation. Les ateliers de Jean Nouvel ont fourni un espace libre sans mur et sans salle, basé sur un système de plateaux et de coursives. Les œuvres prennent donc place dans ce large espace ouvert. De l'entrée, on peut observer toutes les strates de l'exposition. Comme dans un grand magasin, il n'y a d'ailleurs pas de cheminement. Et pas de sens. L'exposition s'aborde totalement librement. Il y a bien quatre thématiques définies, mais chaque thématique semble se mélanger avec une autre. L'espace et l'organisation encouragent à décloisonner nos conceptions sur l'art. Ces nouveaux locaux semblent même manifester le regard que la Fondation porte sur la création, un espace sensible, inqualifiable, inclassable, qui ne se définit que par l'œuvre elle-même. Puis, par son nom, exposition générale, par son nombre d'œuvres, 600, par sa géographie en face du Louvre, on a l'impression que la Fondation Cartier souhaite s'imposer comme une nouvelle voie du paysage du premier arrondissement, celle de l'art contemporain, comme le nouveau grand musée parisien. C'est un pari assez ambitieux, alors la Fondation Cartier nous présente un échantillon d'œuvres presque suffisant à la compréhension des 40 dernières années. Pour ça, elle met en scène tous les médiums, a invité des artistes internationaux. Elle semble revendiquer que sa collection est exhaustive. Cette exposition assoit sa légitimité pour convaincre qu'on l'écoute dans le futur. Car après cette exposition, la Fondation va continuer à jouer le jeu du mécénat. Montrera-t-elle la marche à suivre pour les galeristes, les acheteurs et les musées?
Mais alors c'est quoi les objectifs de la Fondation Cartier avec cette expo?
Clairement, elle nous invite dans sa collection pour partager sa vision de l'art et nous prouver sa valeur. Elle s'impose comme une des nouvelles grandes institutions contemporaines. Peut-être va-t-elle prendre la place du Centre Pompidou pendant sa fermeture. Cette idée me paraît néanmoins assez improbable. D'abord car elle ne vise pas les mêmes périodes, mais aussi car, rappelons-le, bien que les fondations empruntent au code du musée, la fondation reste une entreprise avec des intérêts marchands. Cette exposition le prouve bien. La forme est un grand magasin et on nous vend une expérience esthétique immense. Dans cette vitrine, c'est aussi son image que l'entreprise vend. La rétrospective est une mise en scène des choix de la Fondation et de la bienfaisance de Cartier envers les artistes émergents. Ce nouveau grand lieu d'exposition reste un espace spectaculaire et commercial. Pour finir tout de même sur une note positive et avec un peu d'espoir, revenons sur les œuvres. On trouve de nombreux discours décoloniaux et des artistes contemporains extra-occidentaux, on la voit. Il n'y a pas que des superstars, il y a aussi des artistes en train d'émerger. Si la Fondation peut utiliser ses discours pour les marchandiser, elle ne néantise pas leur subversion et l'émancipation qui leur est liée. Alors, pour entendre ces discours et profiter qu'on donne la parole à autant de personnes au même endroit, je vous invite à visiter cette grande exposition. Néanmoins, je pense qu'il faut le faire en connaissance de cause, en sachant les intérêts et les enjeux qui se jouent ici pour la Fondation Cartier.
Un nouveau lieu à découvrir dans Paris 1er, à voir qui va gagner le duel entre le Louvre et la Fondation Cartier. Merci beaucoup, Hortense. Allez, passons aux réactions. Corian, qu'est-ce que ça t'inspire, sous ce sujet-là de la Fondation Cartier ?
Bah, je suis vraiment curieux d'aller découvrir ça. Et ça a l'air, comme tu le décris, un peu ambivalent. Si j'y vais, je me focuserai sur les œuvres et pas... qu'on essaye de me rendre compte de la grandeur de la fondation, quoi. Mais après, comment t'as décrit l'architecture du lieu, ça a l'air assez aussi intriguant. Enfin,
ouais, l'architecture est impressionnante. Et justement, tout ce qui est intéressant, c'est aussi que quand t'arrives, en fait, tu vois vraiment toute l'exposition. Mmh. En fait, en transparence, tu vois vraiment toutes les œuvres. Et ça fait vraiment comme une grande forêt d'installations et de photographies contemporaines, ce qui est assez impressionnant et puis ce qui est quand même un pari assez ambitieux. Mais c'est cool, je trouve.
Fabrice ?
Ça me donne envie, ouais. Parce que j'aime bien l'art contemporain, parce que ça me fait poser plein de questions. Et puis c'est surtout que j'aime bien les lieux très ouverts. Les lieux très ouverts où tu vois pas mal de choses, tu parcours, tu te poses des questions. Ouais, clairement, j'irai faire un tour.
Isnel ?
Moi aussi, je suis très intriguée par l'idée d'une exposition où on voit tout d'un coup. Et tout est... Est-ce que c'est quand même classé par thème ou c'est...
Bah justement, c'est un peu là leur parti pris. C'est qu'en fait, donc t'as trois étages basés sur des grands plateaux, puis des coursives. Et donc sur les grands plateaux, t'as tout ce qui est en fait en 3D. Et puis sur les coursives, t'as plutôt ce qui est en 2D. Et en fait, il y a pas, il y a quatre grandes thématiques. Mais quand tu regardes sur le plan, les grandes thématiques, elles se côtoient toutes. Mmh. Okay, et donc ça fait un peu que toi-même, tu te demandes tout le temps, et cette œuvre-là, est-ce qu'elle fait partie de cette catégorie-là ou plutôt de celle-là ? Puis tu sors ton plan, tu fais « Ah oui, c'est ça, ok. » Et donc ça t'encourage toi-même à te poser des questions. Et en fait, là où ils ont vraiment gagné leur pari, c'est qu'il y a beaucoup de médiation. Il y a beaucoup de médiation écrite, des médiateurs qui se baladent dans toute la... dans toute la galerie, et des médiations, toutes les heures, il y a une visite. Donc ça permet que même si on est un peu perdu, on peut quand même compenser ça.
Ok. Violette.
Alors moi, je ne suis pas encore allée, et j'ai très envie d'y aller. Je vais être un peu rabat-joie, car j'ai compris que ce sera mon rôle ce soir, dernièrement la rabat-joie de la soirée.
Jusqu'au bout.
Ouais, tout à fait.
Merci d'être venue.
Mais c'est vrai que je trouvais ça chouette que la Fondation Cartier soit dans le 14e, en fait, avant, parce que je trouvais que ça...
Ça
participe à dynamiser. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que déjà que Paris est quand même déjà assez centralisé, là il y avait un petit lieu culturel dans le 14e, ça a changé. Bon, bah là on revient en face du Louvre, où il y a déjà le Louvre. Enfin, il y a vraiment déjà, c'est vraiment un quartier où il y a énormément de choses culturelles qui se passent déjà. Donc bon, voilà, un petit, je trouve que c'est dommage. Mais à part ça, l'expo donne vraiment envie. Je trouve ça chouette qu'ils aient réussi à donner une place justement à des discours un peu décoloniaux et tout ça, qui n'étaient pas forcément. Enfin, qui peut aussi être un peu un rôle de la. Culture publique, normalement, de faire émerger ce genre de discours et qui n'est pas un choix forcément toujours du privé. Mmh. Et donc, je trouve ça bien qu'il s'est fait ce pari-là. J'irai. Merci.
Merci beaucoup pour vos réponses. Si vous voulez aller mettre un pied à la Fondation Cartier dans le premier, c'est maintenant deux places du Palais Royal face au Louvre. Merci beaucoup, Hortense, pour cette chronique. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous Jeanne, Isnel, Hortense, Fabrice, Violette et Corian pour vos chroniques et vos réactions. Merci à Eléa, à la technique qui a géré. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous alors où ça sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram, c'est dans l'art RCP, tout attaché là-bas. On met les références qu'on a citées, alors allez voir. Rendez-vous à la prochaine émission dans 3 semaines pour toujours plus d'art. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.